Nathalie Ferrand-Lefranc, bonjour.
Bonjour.
Vous représentez le réseau Environnement Santé, un sujet que nous abordons assez régulièrement depuis quelques mois. Et puis, depuis la rentrée, c'est le glyphosate avec une autorisation qui a été prolongée finalement par l'Europe.
Alors en fait, elle n'a pas été encore prolongée puisque le vote qu'il y a eu n'a pas permis de déterminer si c'était oui ou si c'était non. Et ceci grâce au vote de la France qui s'est abstenue. Donc ils doivent revoter mi-novembre a priori, donc encore un mois. Mais surtout dans l'actualité très récente, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le lien entre le glyphosate et une malformation d'un enfant qui est né après contamination in utero, dont pour la première fois au monde, ce lien a été reconnu par le Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. Donc ça, c'est un élément qui est très très important. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'une maman en fait qui a donné naissance à un petit garçon, Théo, donc qui est né avec une malformation grave de la trachée et de l'œsophage. Donc parmi les causes, ils ont cherché effectivement de l'environnement. Mais ils voyaient pas trop puisqu'ils consommaient du bio depuis une dizaine d'années, ils habitaient à la campagne, etc. Et puis en fait, la maman s'est rendue compte, en repassant un produit qui contient du glyphosate, qu'en fait, au tout départ de sa grossesse, c'est-à-dire à la fin du premier mois, alors qu'elle ne savait pas qu'elle était enceinte, elle a utilisé un produit qui contenait du glyphosate pour nettoyer le centre équestre dans lequel elle travaillait. Et en fait, cette malformation de la trachée de l'œsophage, la construction, si vous voulez, de la trachée de l'œsophage, se passe à un moment très très précis de l'embryogenèse, et c'est enfin à la fin du premier mois. Et c'est comme ça qu'ils ont pu faire le lien, prouver, assurer, entre cette contamination glyphosate en ce tout début de grossesse et ensuite la pathologie de ce petit garçon.
Ça va changer justement peut-être la décision de l'Europe et le vote, ça va influencer le vote.
Alors en tout cas, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'espère aussi la famille, puisque cette décision en fait a été connue en mars 2022, mais n'a été rendue publique par la famille que très très récemment, quand ils ont vu que de nouveau on parlait de prolonger le glyphosate pendant 10 ans. Et donc le réflexe de la maman, ça a été de dire mais c'est pas possible, ils n'ont encore rien compris. Donc pour ce petit garçon qui est plus grand, qui a 16 ans maintenant, il faut savoir que pendant sa petite enfance, donc jusqu'à 6 ans, il était aspiré par une canule avec une pompe toutes les 10 minutes en journée, toutes les 3/4 d'heure la nuit. Donc quelque chose de très très contraignant. C'est un enfant qui a subi 53 interventions chirurgicales et qui a encore une trachéotomie, c'est-à-dire un trou qui lui permet en fait de respirer, puisqu'en fait les aliments qu'il mangeait repartaient par la trachée et allaient directement dans les poumons, ce qui mettait sa vie en fait en danger. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a cette reconnaissance officielle juridique de ce lien direct, parce que très souvent, ce que disent les industriels, c'est qu'en fait, il n'y a pas de preuves. Donc nous, on donne les preuves au niveau des recherches par l'épidémiologie. On en avait parlé notamment au niveau des anomalies génitales chez le petit garçon, qu'on retrouve de façon 4 fois plus importante chez les fils d'agriculteurs qu'en population ordinaire classique. Donc là, on voit vraiment qu'il y a des éléments de preuve qui sont irréfutables, qui sont reconnus officiellement, et on espère effectivement que ça va bousculer le vote donc des pays européens, donc ils vont revoter. Alors la France s'est abstenue, elle n'a pas voté pour ce que demandait la FNSEA, donc le plus grand syndicat agricole, et elle n'a pas voté contre ce que demandait aussi la Confédération paysanne ainsi que toutes les associations de santé environnementale, parce que les preuves sont là. Pendant combien encore faut-il attendre de temps pour qu'on arrête en fait de laisser ces enfants, des enfants, se contaminer et avoir des pathologies gravissimes par la suite.
Alors, si le vote est contre l'utilisation du glyphosate, il va falloir apprendre à s'en passer. Il y a des alternatives finalement pour les agriculteurs qui ont l'air de dire que c'est quand même assez important pour la production.
Alors, par rapport aux alternatives, donc il y a, d'après l'INRAE, donc l'Institut national qui s'occupe de tout ce qui est agriculture, recherche, etc. Donc, il y a effectivement des solutions alternatives, notamment au niveau de ce qui s'appelle des cultures en relais. C'est-à-dire semer en même temps une culture d'été dans une céréale. Par exemple, du soja dans du blé. Ce qui fait qu'il y a une compétition en fait du soja avec les mauvaises herbes qui ne peuvent pas pousser et de la céréale aussi. Donc ça, ce sont plutôt d'autres façons de faire. Vous savez que dans notre émission, souvent je le dis, il faut pas simplement réfléchir en termes de produits de substitution, mais il faut réfléchir aussi en termes d'autres façons de faire. Donc au niveau des produits, chaque fois qu'on est sur un produit de synthèse, le problème c'est qu'on travaille sur les mêmes molécules, des molécules voisines, donc on peut se douter, comme on a eu avec les bisphénols A, que les suivants, comme le S et le F, sont aussi dangereux, si ce n'est plus que la première molécule. Donc il vaut mieux travailler en recherche sur des choses qui sont beaucoup plus, qui sont en fait naturelles, donc et analyser comment fonctionne en fait la nature, et cette compétition entre les plantes, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est utilisé par des pays comme la Chine, par exemple, et qui évite d'utiliser ces produits, donc à la fois pour des raisons sanitaires, de l'environnement, mais aussi du vivant, et puis pour des raisons économiques, puisque tous ces pesticides sont des produits qui coûtent quand même très cher.
Voilà, puisque c'est pas peine de remplacer un désherbant par un autre désherbant qui provoquera d'autres réactions si ce ne sont les mêmes. Et du coup, ça marche, c'est une expérience qui a été tentée et qui a des résultats probants.
Oui, tout à fait, puisque je disais que c'est utilisé en Chine. Donc, alors ensuite, je ne suis pas spécialisée.
Est-ce que ça veut dire que la Chine est en avance aussi sur la question ?
Je pense qu'ils ont fait beaucoup plus de recherches que ce qu'on peut faire, mais encore une fois, l'INRAE en France fait des recherches là-dessus, et ça serait très intéressant que les pouvoirs publics se penchent davantage sur ces recherches et mettent davantage de moyens dans ces recherches qui font partie de la lutte contre les perturbateurs endocriniens. Il faut savoir que malheureusement, en France comme en Europe, on a plutôt tendance à diminuer l'argent public qui va sur ces recherches que l'augmenter, ce qui est vraiment dommage. Après, se pose une grande question de responsabilité. Donc, on en a parlé notamment avec les perfluorés, donc tous ces produits qu'on retrouve par exemple dans le téflon. Donc le conglomérat américain 3M qui va arrêter de produire ses perfluorés parce que les amendes qu'il paye sont plus importantes que les bénéfices, le profit qu'il retire de la vente de ses produits. Donc on voit à chaque fois que ce qui marche le mieux, c'est la réponse en fait financière, économique de la sanction. Mais il y a aussi une responsabilité juridique des fabricants et il y a aussi une responsabilité juridique des élus. Puisque maintenant, plus ça va, plus on sait ce qu'il y a. Donc on voit de plus en plus des class-actions, c'est-à-dire des actions de groupe de citoyens qui se mettent ensemble pour porter plainte, notamment contre les élus, hein, bien sûr contre les industriels, mais aussi contre les élus pour en fait mise en danger des personnes et non-action à ce niveau-là. Donc dans les prochains mois, on aura toute une série d'actions qui sont en cours au niveau de la vallée de la chimie, donc la vallée du Rhône, avec notamment la société Arkema qui produit ces fameux perfluorés. Donc on voit qu'il y a vraiment au niveau juridique des textes qui montent en santé de l'environnement, en droit de respecter la santé de l'environnement, et je pense que ça va beaucoup changer la donne dans les mois et les années à venir.
Alors comme c'est une décision qui se prend aussi au niveau européen, quel est le positionnement finalement de nos voisins sur cette question ?
Alors on a les pays par exemple du Nord qui sont plutôt contre le glyphosate, notamment l'Allemagne, alors qu'on a les pays du Sud qui sont plutôt favorables. Donc là on est en lien avec un modèle agricole, et ce modèle agricole qui est pas si vieux que ça, et puisqu'il date juste après la Seconde Guerre mondiale, donc il date d'une soixantaine d'années. Donc c'est un modèle agricole qui s'est construit en fait sur l'utilisation de ces produits de synthèse, que ça soit au niveau des engrais, des pesticides, des insecticides, etc. Donc ça veut dire que globalement et ensemble, il faut que nous réfléchissions à notre modèle d'agriculture. Et comme je le dis souvent sur cette antenne, il ne s'agit pas de clouer au pilori les agriculteurs en disant que ce sont de méchantes personnes parce qu'ils utilisent ces produits, mais il faut vraiment questionner le modèle agricole et comment il fonctionne. Comment il fonctionne et notamment après, comment ce modèle est défendu par un gros syndicat comme la FNSEA, où on voit que pour eux, ils le lient vraiment au fait qu'il faut produire pour pouvoir avoir une sécurité alimentaire, en disant si on produit moins, en fait, on ne pourra pas assurer l'alimentation pour tout le monde. Ce qui, du point de vue du réseau environnement santé, n'est pas juste, puisque en fait, il faut savoir qu'au niveau de l'alimentation qui est produite, il y en a à peu près un tiers qui repart à la poubelle. Donc on voit qu'il y a vraiment à réfléchir, et plus qu'à réfléchir, je pense que les pouvoirs publics, les élus ont une responsabilité de pouvoir pousser en avant d'autres méthodes agricoles en accompagnant les agriculteurs qui sont quand même en très grande difficulté. La plupart n'arrivent pas à vivre de leur travail en travaillant 60 heures par semaine. Donc on a vraiment collectivement à se questionner, y compris nous consommateurs, nous citoyens, les élus, afin que tout le monde prenne sa part parce que chacun a un petit bout de la solution.
Le vote à l'Europe, hein, c'est à quel horizon, quelle date?
Alors, c'est mi-novembre, donc il réinterviendra mi-novembre, donc on pourra en reparler dans une prochaine émission.
Nathalie Ferrand-Lefranc, merci beaucoup.
Merci.